Actu SF, les podcasts.
Bon après-midi. Alors, voici la terre que nous vous laisserons, saccagée, polluée, désertifiée, avec moi pour en parler. À ma gauche, Jean-Pierre Andrevon. Est-ce qu'il faut encore le présenter, Jean-Pierre Andrevon ? Oui, allez. Grand prix de la science-fiction française, prix Julie Verlanger, prix du roman d'aventure, pour différents romans, évidemment, et une multitude de romans dont on peut sortir le travail du Furet à l'intérieur du Poulailler, le désert du monde, le monde enfin, non, ça c'est des nouvelles. Hein. Demain, le monde, non, ça c'est des nouvelles. Toute la saga de Gandahar, etc. C'est un homme qui fait aussi, qui écrit des chansons, qui dessine, bref, un artiste à tout faire. Pierre Bordage, bon, c'est presque aussi un artiste à tout faire, mais je ne crois pas que tu écrives des chansons.
J'en écris, mais tout le monde s'en fout.
il en a écrit, mais tout le monde s'en fout, oui. Aussi plein de romans. On va sortir Wang pour peut-être autour du thème ici. Sylvie Miller, traductrice, écrivaine, et surtout dans la dernière, le dernier tome de son détective des dieux, Lasserre. Le dernier tome s'appelle Trahison en terre celte. Et Nicolas Cartelet, avec une série de romans aussi, et le dernier paru est Dernière fleur avant la fin du monde, je crois, à moins qu'il y en ait eu d'autres depuis. Voilà, mais donc on va parler de cette terre, de ce qu'on nous laisse à nos enfants. En fait, Jean-Pierre Andrevon, c'est un peu la terre que nous laisserons à des grands thèmes de plus de 50 années d'écriture.
Oui, tout à fait. Dès mes premiers textes, dès mon tout premier texte publié, d'ailleurs qui s'appelle La Réserve, qui était paru dans Fiction. Je parle d'une terre désertifiée, effectivement, où les gens sont, les quelques survivants sont venus à un stade tribal et de cueilleurs-chasseurs. On se rappelle des mots d'Einstein, la Troisième Guerre mondiale sera à coup de bombe atomique et la quatrième à coup de bâton. Et malheureusement, c'est ce qui nous attend, même si ce n'est pas une guerre atomique qui nous attend. C'est une guerre plus larvée, ou en tout cas qu'on croyait plus larvée, il y a encore quelques dizaines d'années. Et qui maintenant, on sait, on a la certitude chiffrée qu'elle nous tombe sur la tête. Hein. On ne parle plus de changement climatique, on parle d'emballement climatique maintenant. Et c'est très très grave. Ça nous menace vraiment. Et aujourd'hui, ce n'est pas nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est nous maintenant. Alors c'est vrai que la connaissance de ces faits est venue petit à petit, à mesure que les scientifiques nous la soufflaient, parce que nous, écrivains de science-fiction, on n'est pas des scientifiques, on se base sur ce qu'on nous dit, sur ce que les scientifiques savent et ont calculé, nous disent, pour écrire nos petites histoires. Et souvent, je dis que maintenant, où peut aller la science-fiction sans parler de cet emballement climatique, sans parler de la pollution généralisée, sans parler de l'extinction des espèces, je ne sais pas. Ou alors, on fait de la fantaisie. Moi, la fantaisie ne m'intéresse pas, effectivement, même si on y baigne dedans, dans cet environnement d'Épinal. Et voilà, quoi, je n'ai pas écrit que ça, mais c'est vrai que ça m'a toujours interpellé, ça m'a toujours angoissé, il faut bien le dire. La perspective de la fin de l'humanité, pas la fin de la planète, hein, la planète survivra, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle a survécu à 5 grandes extinctions déjà, dont une qui a annihilé plus de 90% des êtres vivants. Mais bon, j'ai toujours pensé que c'était difficile de ne pas tenir compte de ces faits pour écrire une nouvelle ou un roman de science-fiction. Alors, dans les années 70-80, au plus chaud de la guerre froide, on pensait plutôt à la guerre atomique, hein, qui avait été théorisée, effectivement, 800 millions de morts, la couverture nuageuse, etc. Bon, l'hiver atomique, comme on l'appelait. Et maintenant, donc, c'est la pollution qui s'est aggravée du fait de l'élévation progressive, lente, mais très, 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 très rapide à l'échelle géologique, de la Terre et l'élévation de la température causée, bien entendu, par nous autres, pauvres humains, chaque fois qu'on prend la voiture, pour ceux qui ont encore une voiture, il y en a peut-être, ils y contribuent. Chaque fois que vous mangez un beefsteak, il n'y a peut-être pas que des végétariens dans cette salle, vous y contribuez, etc., etc. Alors voilà, je me dis, qu'est-ce qu'on peut écrire en science-fiction si on ne se rend pas compte de ce fait? Bon, voilà, j'en ai assez dit, peut-être.
Sylvie, dans ton dernier lacet, Trahison en terre celte, en effet, il y a une enquête, mais c'est dans un monde où aussi le dérèglement climatique, on ne peut pas encore parler de réchauffement peut-être, est en train de s'opérer.
Oui, alors c'est de la fantasy urbaine, qui va parler effectivement de ces problématiques-là, puisque la Serre, on est dans un monde dans les années 30 qui ressemble à notre monde, mais c'est un monde où les structures politiques antiques sont toujours en place, donc il y a encore des pharaons en Égypte, des empereurs à Rome, etc., et où les dieux se promènent au milieu des hommes. Et donc là, dans ce tome 5, la Serre qui mène des enquêtes pour le compte des détectives, il est appelé en Gaule parce qu'il y a eu un souci qui s'est passé pendant un rituel, le rituel d'Imbolc, qui est donc le rituel du printemps qui consacre le retour, le réveil de Mère Nature. Et ce rituel a été perverti par un druide et du coup, il va devoir enquêter pour essayer de rattraper ce druide et l'obliger à corriger son rituel parce qu'il constate que lui qui est né en Gaule, a été élevé en Gaule, après il est parti en Égypte, mais c'est le printemps, il n'y a pas de bourgeons sur les arbres, les bêtes qui d'habitude mettent bas à cette époque-là, là, n'attendent pas de petits. Et on va voir petit à petit que le climat va se dérégler au fil de l'histoire. Il apprend un peu plus tard que le Nil soit gèle à un moment donné ou se dessèche et qu'il y a comme ça des catastrophes de plus en plus un peu partout dans le monde. Et il va mettre le doigt dans quelque chose de beaucoup plus profond parce que derrière cette perversion d'un rituel à un endroit, il y en a eu d'autres à d'autres endroits. Et il va devoir aller creuser au niveau de divinités beaucoup plus anciennes et beaucoup plus oubliées pour essayer de trouver qui a provoqué ça. Et en fait, c'est une extinction massive qui est en train de se dérouler et il va devoir sauver la planète.
Vaste programme. Nicolas, dans le dernier roman de Nicolas aussi, les insectes pollinisateurs ont disparu et les exploitations pollinisent à la main. Une très belle image d'ailleurs. Là aussi, c'était obligatoire, enfin, pour toi, c'était normal de parler de ce dérèglement climatique et de ces problèmes d'environnement.
Oui, je suis un petit peu d'accord avec ce qui a été dit avant. Je pense qu'on ne peut pas faire d'anticipation sans parler de ça. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la plupart des gens ont accepté l'idée qu'on allait vers un effondrement climatique. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on agit énormément pour lutter contre ça, mais en tout cas, on en a conscience. Là, en l'occurrence, donc, mon roman, il y a deux catastrophes. Il y a l'effondrement du monde, c'est-à-dire de notre société telle qu'on la connaît, l'économie de marché, etc. Mais aussi l'effondrement climatique avec la disparition des abeilles. Et ça, c'est pas de l'anticipation. En fait, ça, on a déjà des régions dans le monde où les abeilles ont disparu, puisqu'en fait l'idée de ce roman m'est venue après avoir visionné un reportage sur une région dont j'ai oublié le nom à l'ouest de la Chine, une très grande région où les abeilles ont disparu et donc où les exploitations agricoles doivent assurer la pollinisation des plantes à la main, sinon les autres insectes ne suffisent pas en fait pour y parvenir. Et ça m'avait assez glacé le sang, ça mobilise des milliers d'ouvriers agricoles tous les ans. Qui sont évidemment qui travaillent dans une précarité totale. Voilà, c'est assez glaçant. Et donc c'est pas l'anticipation. Ça commence aujourd'hui. On peut imaginer évidemment que ça va s'étendre à d'autres régions du monde avec l'aggravation des problèmes climatiques.
Et chez Pierre, le dérèglement climatique intervient dans beaucoup de tes romans.
Il intervient mais de façon indirecte. J'ai fait des postes, deux ou trois postes apocalyptiques qui parlent plutôt de guerre nucléaire, dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, ou de cataclysmes provoqués par l'homme, qui peut être aussi génétique d'ailleurs. J'ai l'impression que notre espèce, elle est assez douée pour se détruire. Elle s'ingénie à se détruire d'ailleurs, elle passe beaucoup de temps à ça. La preuve, c'est que la plupart des inventions sont d'abord d'essence militaire. C'est, ça veut dire détruire le plus de monde possible en un minimum de temps possible. Donc, on est dans une sorte de mouvement qui semble conduire à notre perte inexorablement, puisque nous sommes apparemment incapables de contrôler quoi que ce soit, parce que il y a toujours des notions de territoire, d'appartenance à des territoires, tout ça qui prédomine sur ce que devrait être l'intérêt global de l'espèce. Donc, j'ai l'impression qu'on est condamné à ça, mais je me demande si c'est pas une malédiction. Si ce n'est pas déjà écrit dans les livres anciens, s'il n'y a pas déjà cette notion d'âge de la destruction qui, par exemple, le Kali Yuga en mythologie indienne, en religion indienne, c'est-à-dire il y a un âge de destruction où il faut tout raser pour repartir parce qu'on est incapable de parer cette destruction programmée. Donc, est-ce qu'on est là-dedans ? Moi, j'essaie de voir un petit peu, est-ce qu'on est là-dedans ? Est-ce qu'on est vraiment là-dedans ? Parce que j'ai l'impression que malgré les avertissements qui sont lancés partout, malgré les avertissements des scientifiques, malgré les avertissements des auteurs de science-fiction, qui ne servent strictement à rien par ailleurs, mais bon, ok, on essaie de faire quand même, personne ne réfléchit vraiment. Enfin, je veux dire, on a une élection européenne là, dans les jours qui viennent, et personne ne parle de ça. Tout le monde s'en fout complètement. On est là en train de parler de marché, de comment on va rétablir l'économie, de comment on va relancer la croissance, de tout ça. Et tout ça est archi dépassé, démodé et mortifère. Donc, ok, allons-y, fonçons dedans, et puis on verra bien ce qui se passe, quoi.
Il y a quelque chose d'un peu peut-être dangereux dans ce que tu viens de dire, c'est que tout cela semble pourrait être programmé.
Pas programmé, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté malédiction dont on n'est pas capable de se sortir, malgré certaines personnes qui émettent des signaux d'alarme. J'ai l'impression qu'on y va quand même, on roule quand même. Tu parlais des voitures tout à l'heure, nos voitures roulent quand même vers cette espèce d'abîme qui semble inéluctable. Et je ne demande pas mieux à ce que ça, qu'il y ait un sursaut qui nous dise, ben non, on fait fausse route, mais c'est remettre en cause tout, fondamentalement. Enfin, je veux dire, faut aller de fond en comble. C'est pas simplement rouler au diesel ou faire 88, 90, c'est dérisoire. Ça veut dire tout remettre en cause sur notre propre perception matérielle des choses. Donc avoir une vision du monde différente, beaucoup plus basée sur la spiritualité, beaucoup plus basée sur autre chose, enfin sur une autre perception du monde qui ne soit pas matérialiste, parce que le matérialisme, c'est une catastrophe. Et je pense que l'économie de marché dont on parlait tout à l'heure, c'est la vision pervertie extrême du matérialisme.
On n'a pas l'air de prendre cette direction-là, n'est-ce pas, Jean-Pierre ?
Non, on ne la prend pas, parce que c'est pas que les gens n'y croient pas, mais c'est que les gens ne le voient pas. On est là, en France, on est tranquille, on n'a pas trop chaud, il y a encore de l'eau qui coule, on fait nos courses au supermarché... mais on pollue. Et ceux qui sont en plein dedans, c'est ceux qui polluent pas, mais qui subissent notre pollution. Hein. Malheureusement, le Bangladesh, ils vont avoir de l'eau jusqu'au cou et jusqu'aux yeux, et nous, on sera encore tranquille là. Et eux, ils sont pour rien. C'est nous qui sommes pour quelque chose. Et dès l'instant où on voit pas, où on ressent pas physiquement, matériellement, les changements qui sont en train de s'opérer, on fait rien. On se dit, oh ben, on a le temps, mais on n'a pas le temps. Et c'est ça le problème. Mais comment le faire comprendre aux gens ? Comment le faire comprendre aux politiques, surtout parce que c'est eux qui nous dirigent. Nous, d'accord, on ne roule pas en voiture, on est végétarien, bon, c'est mon cas, je n'accuse personne, bien entendu. Nul n'est parfait, et moi, moins que quiconque. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi ? Et les foutre en l'air, il faut... C'est le problème de la croissance, comme disait Pierre. Il y a ce mythe qui vient du 19e siècle, hein, de la société industrielle qui voulait améliorer le sort des gens. On peut pas dire le contraire. Hein. Les ouvriers, ils voulaient plus travailler 14 heures par jour dans la mine. Ils voulaient avoir une maison et l'eau courante, bien sûr. Seulement, malheureusement, il y a ça. Et puis, il y a l'accroissement de la population, qui est un sujet tabou. Personne n'en parle. On va être 8 milliards. On sera 9 milliards dans 20 ans. On sera 10 ou 11 milliards. Mais si on vous dit ne faites plus d'enfants, en faisant moins, en faisant un, oh là là, non. On ne veut pas en parler de ça. C'est un des tabous majeurs pour moi, parce que la clé du saccage, la clé du saccage des ressources, ben c'est la population qui s'accroît, quoi. Quand on est trois à table, on mange plus que si on est un, ça c'est quand même. J'ai deux enfants, ah ben tiens, on va en faire un troisième. Mais les gens raisonnent comme ça. Et ça, il ne faut plus. il ne faut plus. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Il n'est pas question, ni pour moi, ni pour personne, ni pour aucun politique conscient, de réguler la population en disant il n'y aura plus qu'un enfant par couple, comme on l'a fait en Chine. Ça ne marche pas, de toute façon. Tout est une question d'éducation seulement. Est-ce qu'on a le temps vraiment d'éduquer? Est-ce qu'on a le temps d'éduquer les familles africaines, de ne pas faire 5 ou 6 enfants, mais d'en faire qu'un ou deux? Je ne sais pas. Et même ça, il ne faut pas le dire. Ouh là là, l'Afrique, on est des néocolonisateurs, il ne faut pas en parler. Ouh là là, on est des racistes. Ben si, et si, il faut en parler. Il y a des tas de tabous dont on n'ose pas parler, mais nom de Dieu, il faut en parler, sinon on est mort.
Nicolas, je voulais que tu réagisses.
Oui, c'est vrai que on a beaucoup parlé de ça. Il y a un Mars intergalactique dont le thème était le post-apo. Et il y a une réflexion que j'ai trouvée intéressante, qui est un peu ressortie des tables rondes, qui est que, effectivement, probablement le coupable dans tout ça, c'est le capital, c'est l'économie de marché qui régit nos sociétés occidentales et même tout le monde entier aujourd'hui. On voit tous qu'on va dans le mur. On voit tout ce qu'il faudrait changer, notre façon de fonctionner, économique, mais même toute la manière dont on fonctionne. Malgré tout, l'économie de marché arrive encore à retourner ça en faisant une espèce de spectacle de la fin du monde, c'est-à-dire en faisant des films, en faisant des livres, on en fait aussi. Ça aussi, ça sert l'économie de marché, c'est-à-dire que ça devient un grand spectacle dont on retire de l'argent, plutôt qu'effectivement que de chercher des solutions, ce serait beaucoup plus compliqué à faire.
Sylvie, il y aurait
effectivement, il y a tout ce discours économique qui a récupéré. Jean-Pierre, tu parlais de l'accroissement de la population, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le changement des habitudes. Par exemple, il y a des parties entières de la Terre où les gens, par exemple, mangeaient très peu de viande ou autre et qui adoptent des modèles de consommation à l'européenne et qui, du coup, modifient des habitudes ancestrales où il y avait une certaine forme d'équilibre pour finalement utiliser des modes de vie aussi déséquilibrés que les nôtres où on surconsomme au niveau des aliments, où on surconsomme au niveau de l'énergie. Parce que effectivement, il faut alimenter le marché avec des discours de croissance, créer de l'emploi. Du coup, on se retrouve avec un modèle dominant qui est un peu accepté par tout le monde et qui nous conduit à notre perte. Mais c'est très compliqué d'arriver à faire marche arrière et de réagir parce que, d'une part, les choses sont tellement intriquées qu'on a l'impression que c'est un peu un mikado. Quand on tire une barrette d'un côté, on va en tirer une autre. Et il y a effectivement ce discours de ben voilà, l'essence, c'est pas bien, ça pollue. Alors on va faire des voitures électriques. Sauf que les voitures électriques, l'électricité, il faut bien la produire quelque part. On fait quoi? On rouvre des centrales? On remet en route des centrales à charbon? Non, ce qu'il faut faire, c'est revoir l'urbanisme pour faire en sorte que les gens travaillent à 10 minutes de chez eux et qu'ils y aillent à pied ou en vélo. Mais ça ne fait pas vendre de voitures, ça ne fait pas travailler les industriels. Donc du coup, on est un peu coincé par ces discours économiques. Et puis aussi, ne nous voilons pas la face. L'écologie, elle est toujours bien quand c'est le voisin. Quand on vous dit, tu vas prendre un peu moins ta voiture, ah ben si, moi j'ai besoin. Ou tu ne vas pas faire ci, ah ben si, l'écologie, le voisin, mais moi non. Donc les gens ont beaucoup de mal parce qu'ils n'arrivent pas à ressentir l'urgence.
Vous me semblez être tous les quatre un peu des gourous ou des sermonneurs qui dressent le doigt devant nous en disant « Vous êtes coupables, nous sommes coupables, vous en prenez pour votre grade aussi. Que faire, Pierre ?» Je sais bien que ce n'est pas le rôle de l'écrivain.
Je peux passer mon tour.
de donner des solutions, mais non. Y a-t-il encore moyen de changer les choses?
C'est très difficile maintenant parce que, comme disait Sylvie, c'est très imbriqué tout ça. Et quand je suis allé à Delhi récemment, je suis allé au Bhoutan récemment, je suis passé par Delhi. Et à Delhi, c'est une ville que j'avais vue en 75, et la ville était devenue mais infernale, quoi. C'est des embouteillages monstrueux, c'est un brouillard jaune permanent sur la ville. Et moi, je me vois mal dresser le doigt, comme tu dis, d'être accusateur et dire aux Indiens « ne consommez pas, car c'est pas bien ». Nous, on l'a fait pendant un ou deux siècles. Et on a suffisamment pris notre part pour interdire ça aux autres. Donc ça, c'est quasiment pas possible. Je pense qu'il faut vraiment un changement de structure profonde humaine, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire cesser de dépendre notre bonheur hypothétique de conditions matérielles. Et je pense que dès qu'on aura ça, je pense qu'on a le fait d'aller se promener en avion n'importe où dans le monde, ça donne pas le bonheur, je vous garantis. Ça fait marcher les agences de voyage, mais ça donne absolument pas le bonheur. Il y a plein de choses qui ne donnent pas le bonheur, on le sait, mais qu'on fait parce qu'on pense que ça va être des substituts à notre vie quotidienne, monotone, sinistre, etc. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre à fonctionner différemment, à chercher le bonheur de façon différente, qui ne soit pas dépendant des conditions matérielles.
Jean-Pierre, ça veut dire le retour...
Je ne vois pas d'autre solution.
Le retour à une société pastorale, une société rurale.
Voilà, terre. Mais on ne sait pas, justement, c'est ça qui est le problème, on ne sait pas. Et surtout, on n'a pas le temps. Voilà, le pessimisme qu'on peut avoir, si on est pessimiste, moi je préfère le terme lucide, parce que pessimiste, ça ne veut rien dire. Les choses sont ce qu'elles sont, elles sont chiffrées. Voilà. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Tout est une question d'éducation, effectivement. On peut convaincre les gens si on a la force de les convaincre. Mais il faut avoir le temps pour ça. Nous, on a notre boulot, on est écrivain, on est journaliste, on est... qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'en sais rien. Et en plus, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vais vous lire un truc quand même, hein. J'ai assez parlé de moi. Et vous savez de qui c'est. Les Blancs se moquent de la terre, du daim ou de l'ours. Lorsque nous, les Indiens, chassons le gibier, nous mangeons toute la viande. Lorsque nous cherchons les racines, nous faisons de petits trous. Lorsque nous construisons nos maisons, nous faisons de petits trous. Lorsque nous brûlons l'herbe à cause des sauterelles, nous ne ruinons pas tout. Nous secouons les glands et les pommes de pin des arbres, nous n'utilisons que le bois mort. L'homme blanc, lui, retourne le sol, abat les arbres, détruit tout. L'arbre dit « Arrête, je suis blessé, ne me fais pas mal ». Mais il l'abat et le débite. L'esprit de la terre le hait. Il arrache les arbres et les ébranle jusqu'à leurs racines. Il scie les arbres, cela leur fait mal. Les Indiens ne font jamais de mal, alors que l'homme blanc détruit tout. Il fait exploser les rochers et les laisse épars sur leurs roches. La roche dit « Arrête, tu fais mal ». Mais l'homme blanc n'y fait pas attention. Quand les Indiens utilisent les pierres, ils les prennent petites et rondes pour y faire leur feu. Comment l'esprit de la terre pourrait-il aimer l'homme blanc? Partout où il la touche, il laisse une plaie. Sitting Bull, à la fin du 19e siècle, il avait tout dit. Et qu'est-ce qu'on a fait des Indiens? On les a assassinés. Tout est là. Hein.
Oui, tout est là, mais ça ne nous donne pas de solution.
Et j'en aurais pas plus que, que les autres. Hein. Je pense qu'on est effectivement, on vit dans un système qui a une capacité incroyable à agoniser, mais tout doucement. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on peut encore vivre longtemps, finalement, comme ça, en regardant les choses se détériorer de plus en plus. Parce que finalement, on écrit souvent des romans qui partent de l'idée d'une grande catastrophe. Mais je suis même pas sûr que ça aura lieu, en fait. Je pense que ça va plutôt être une lente déliquescence. Donc, je suis pas du tout optimiste, moi non plus. Et là, j'ai pas de solution. Sinon, je m'empresserai d'en faire un roman.
Mais...
Oui, il y a peut-être quand même des éléments de solution, comme tu le disais, déjà à partir du comportement individuel. Puisque moi, j'entends autour de moi des gens qui me disent « Oui, mais moi, tout seul, je peux rien. Il faut que les politiques fassent quelque chose. » Bon, peut-être, mais enfin, en attendant, tu peux déjà commencer à essayer de consommer un petit peu moins d'eau. Ferme ton robinet quand tu te laves les dents. Regarde ce que tu achètes. Hein, les locavores, au lieu d'acheter des fruits et des légumes cultivés à l'autre bout de la terre et amenés à grand renfort d'avions, de bateaux qui consomment du gasoil, etc. Achète un peu plus de fruits et légumes de saison cultivés autour de chez toi. Et si chacun s'y met, on est quand même plusieurs milliards sur la planète, on va déjà faire bouger des petites choses. Après, trouver des idées, également faire pression sur les politiques. Parce que les gens me disent, oui, mais les politiques... Enfin, les politiques, c'est toi qui les as élus. C'est toi qui les as mis où ils sont. Donc, dis à telle ou telle politique, moi, ton discours ne me convient pas, je ne vote pas pour toi. Et puis toujours les gens nous disent oui mais bon l'écologie c'est bien beau mais avant ça il y a déjà le chômage, il y a ci, il y a là, mais enfin quand il y aura plus de planète de toute façon il n'y aura plus de boulot, il n'y aura plus rien, donc il faut essayer aussi de réfléchir à ce niveau là en se disant qu'on va peut-être pas bouleverser tout d'un coup mais qu'on peut peut-être inverser des choses en se posant la question de qu'est-ce qui fait sens, est-ce que j'ai besoin de changer de téléphone tous les ans? Est-ce que j'ai besoin de, effectivement, partir en vacances à l'autre bout de la Terre tous les ans? Alors oui, c'est bien d'aller voir Machu Picchu, etc. Mais Est-ce que c'est indispensable dans ma vie? Et est-ce que ça va me rendre plus grand, plus beau, plus fort? Est-ce que j'ai besoin de regarder la télé tous les soirs? Pourquoi je ne ferais pas un jeu de société à l'ancienne avec mes gamins et on va passer une super soirée, on n'aura pas consommé d'énergie? Enfin, il y a comme ça un certain nombre de choses dans nos comportements de base sur lesquels on peut se poser des questions et en tout cas se remettre en cause au niveau individuel.
Mais comment faire en sorte que ces comportements individuels puissent prendre une certaine échelle pour avoir un certain poids?
Le raisonnement économique te dit que un comportement économique, c'est une somme de comportements individuels. Regarde la consommation. C'est pas à la télé où on se dit « Ah, on va décider qu'on va tous acheter telle ou telle chose ». On fait une pub qui donne envie aux gens et après, c'est les gens qui achètent et qui font que tel produit marche et que du coup, telle habitude se prend. Donc, finalement, un comportement collectif est toujours une somme de comportements individuels.
Je voulais revenir sur ce que tu disais sur ton texte là de Sitting Bull, parce que je trouve que c'est une des clés. C'est-à-dire que l'écologie, on parle beaucoup de l'écologie, et je pense que l'écologie ne peut pas aller sans spiritualité. Et je trouve ce texte profondément spirituel. C'est-à-dire que c'est l'esprit des choses qui est important. Et l'arbre a un esprit, tout a un esprit, la roche a un esprit. Et à partir de ce moment-là, on devient beaucoup plus attentif parce que tout ce qui nous environne, c'est nous-mêmes. Ce sont des éclats de nous-mêmes. Ça nous réfléchit nous-mêmes. Et donc là, il y a peut-être une solution, c'est de revenir à ces notions presque sacrées des choses. Tant qu'on a, nous, on a une espèce de surconsommation dont on n'a rien à foutre, quoi. Le téléphone, c'est un téléphone. On en achète, on le jette. On n'a plus de conscience sur les choses. Et je pense que c'est le niveau de conscience sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on achète, sur tout ce qu'on vit, qui peut donner du sens et une vraie écologie, c'est-à-dire, ben oui, on fait attention à tout parce que tout est important finalement. Et on se sent relié à tout. Et tant qu'on ne se sentira pas relié à tout, ben, je pense qu'on fera n'importe quoi.
Et comment parvenir à ce nouveau paradigme?
Ben, on va en causer. on va essayer. Oui, il y a les écrivains, il y a essayé de retrouver des vieux textes. Ça, c'est ce genre de texte devrait être diffusé partout en permanence. Il y en avait un autre, celle du chef Joseph Déné Percé, qui disait mais comment est-ce qu'on peut acheter de l'herbe? Comment est-ce qu'on peut acheter de l'eau? Comment est-ce qu'on peut acheter de l'air? Pour eux, la notion de territoire fermé appartenant à quelqu'un lui paraissait totalement irrationnel parce que c'est de l'herbe, c'est de l'eau, c'est de l'air, ça appartient à tout le monde. Ça ne peut pas être arrêté par une clôture, ça ne peut pas être enfermé dans des limites. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait chercher, je pense. C'est-à-dire retrouver une vraie spiritualité, pas au sens religieux, parce que la religion, c'est malheureusement une catastrophe, parce que la religion elle-même est une captation matérielle de la spiritualité. Donc je pense que c'est exactement les mêmes défauts que dans notre façon de consommer ou notre perception de l'économie. Mais la véritable spiritualité qui est, nous sommes liés, nous sommes tous liés les uns aux autres, nous sommes tous liés aux éléments et retrouver tout ça, quoi.
Comme Pierre disait, donc en parler ici et ailleurs le plus possible. Et quel est le rôle de l'écrivain dans tout ça, Nicolas?
Je pense pas que l'écrivain ait un rôle différent de tous les autres. Simplement, tout au moment où il écrit, il sera peut-être entendu par plus de monde. Mais en tout cas, je prétends pas avoir un pouvoir différent de tous les autres. Là, le souci, effectivement, c'est que redonner une épaisseur spirituelle aux choses, c'est, je pense, ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui, parce qu'on est vraiment arrivé à un stade où tout est entièrement désacralisé. Effectivement, plus rien n'a d'esprit. Enfin, bon, c'est quand même très très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, moi, ce que disait Sylvie sur le retour au circuit court, c'est-à-dire arrêter de fonctionner dans cette logique de terre mondialisée, hein, où tout. Je pense que c'est une des clés. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans tous les récits post-apo par la force des choses, en fait. Hein. Très souvent, on retrouve une communauté à l'échelle d'une ville, d'une région, qui est complètement déconnectée du reste du monde. Parfois, d'ailleurs, assez souvent, on ne sait pas ce qui s'est passé ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Donc ça a un côté inquiétant parce qu'aujourd'hui effectivement le fait d'être ouvert au monde c'est aussi présenté comme quelque chose de formidable, mais ça peut aussi participer de l'économie de l'utopie altermondialiste puisque à ce moment-là on revient à l'échelle humaine en toute chose. Je pense que ça c'est une vraie piste et c'est ce qui se développe quand même aujourd'hui de plus en plus, alors évidemment de façon embryonnaire, mais de plus en plus de gens portent le porte l'idée qu'il faut revenir au circuit court en général. Quoi.
Ça serait déjà un pas. Qu'en pense Jean-Pierre du rôle de l'écrivain ?
On est des citoyens comme des autres. Effectivement, on peut faire passer un peu plus de messages parce qu'on écrit des livres ou des articles ou des nouvelles qui sont lues par 100 personnes ou par 1000 ou par 10 000 ou par 100 000. Tout dépend de la notoriété de ceux qui tiennent la plume ou les touches. Mais c'est pas grand-chose, mais c'est quand même faire passer l'essentiel si on veut avancer un peu. Et les choses avancent quand même. Il faut pas non plus... On a tous un discours catastrophique, mais il se passe des choses malgré tout. Hein. Des grèves, des désobéissances civiles. Il faudrait que ça soit multiplié par 10, par 100. Ce qu'il faut, c'est faire passer ce message, le faire passer, le faire repasser, le faire passer sans cesse, quoi, en étant convaincant. Et malheureusement, la plupart des gens disent « Ah ben oui, d'accord, tu as raison, mais ils rentrent chez eux, ils font autre chose, quoi. » C'est ça le problème. Comment faire ? On fait parler encore les Indiens quand toutes les rivières sont asséchées, quand les arbres ont péri, quand l'air s'est empoisonné. L'homme blanc se rendra compte que l'argent ne se mange pas, quoi. Ben, c'est ça le problème. Hein. L'argent, 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 quoi. La croissance, la croissance, la croissance. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme disait Sylvie, on accuse les politiques, mais c'est nous qui les élisons, les politiques. Et les élections européennes, personne ne veut voter, on s'en fout, on dit l'Europe c'est loin. Mais l'Europe c'est nous. C'est nous qui élisons le comité européen. Donc il faut agir sur tous les plans, individuellement, effectivement, en privilégiant les circuits courts, en triant ses déchets, en amenant son sac en papier quand tu fais les courses, pour pas qu'on en redonne un deuxième. Mais c'est des tout petits pas, comme disait Hulot, ça suffit pas. Il faudrait qu'il y ait effectivement une gigantesque, non seulement prise de conscience, parce que je crois que la prise de conscience, malgré tout, il ne faut pas être injuste, elle est là, mais il faut que cette prise de conscience se traduise en actes. Et ça, je ne peux pas terminer ma phrase parce que je ne peux pas.
Ouais, ouais. Sylvie, est-ce que l'écrivain, et particulièrement l'écrivain d'anticipation, de science-fiction ou de fantasy, a une responsabilité particulière dans ce genre de combat ?
Alors, moi, je pense que déjà, tu parlais effectivement de science-fiction, fantasy, etc. Nos genres sont des littératures, effectivement, qui nous permettent souvent d'explorer plus de choses à travers, par exemple, des dystopies où on va décrire un univers post-apocalyptique en disant, voilà, si c'est passé ça, voilà ce qui risque d'arriver, en essayant de... Enfin, moi, je trouve que parmi les petits camarades que je vois ici, aux Imaginales et autour de moi, on a beaucoup, beaucoup d'écrivains de genre, là, en ce moment, qui mettent des préoccupations de cet ordre-là dans leurs écrits, d'une manière ou d'une autre, parce que ça nous interpelle. Alors, on est des citoyens lambda, donc, de toute façon, on n'a pas non plus... plus d'importance que quelqu'un d'autre, mais il peut y avoir ce rôle, en tout cas, d'alerte, de dire les choses, mais comme disait Jean-Pierre, encore faut-il qu'elles soient entendues derrière. Et je lisais récemment dans une revue scientifique des travaux qui ont été menés par des chercheurs autour justement des dispositions naturelles de l'être humain et où ils avaient dit des choses qui n'étaient pas inintéressantes, à savoir que nous sommes une espèce qui est programmé pour percevoir les dangers immédiats. Par exemple, il y a du feu, il fait chaud, je risque de me brûler, je cours. Mais c'est un peu comme la grenouille que l'on met dans la casserole et où on élève la température tout doucement. On n'est absolument pas programmé pour se rendre compte et pour anticiper le danger futur et y réagir tout de suite. C'est-à-dire que si on a une catastrophe qui nous tombe sur le coin de la figure, on va éventuellement réagir, mais pas avant. Et la deuxième chose, on est également programmé en tant qu'espèce pour se reproduire et pour, quelque part, piller l'environnement autour de nous. Et y compris quand on était chasseur-cueilleur. Sauf que quand on était chasseur-cueilleur, on était peu nombreux et on se déplaçait. Et du coup, l'endroit qu'on avait exploité quand on avait fini de cueillir toutes les noisettes sur l'arbre, etc., bah, on s'en allait, il y en avait d'autres qui revenaient et ça se renouvelait. Quand on a sédentarisé, on a commencé à utiliser, à avoir une pression plus forte sur l'environnement immédiat. Et le fait maintenant qu'on soit très nombreux fait que, là, je sais qu'on a déjà dépassé l'empreinte écologique maximum. Là, on a déjà exploité toutes les ressources. Tu sais, quand ils calculent combien de terres il nous faut, on a déjà dépassé l'utilisation. On est en train de manger le capital des années futures. Et donc, effectivement, là, on a un vrai souci. Et comment on fait pour arriver à nourrir tout le monde en plus, avec des critères de confort, de consommation d'énergie qui sont... et là, j'avoue que j'ai pas de solution. Et là, l'écrivain ne peut pas grand-chose. Peut-être qu'il va falloir imaginer d'autres choses, Mais malheureusement, j'ai bien peur que ces solutions-là, on les trouve quand on sera dans la crise et quand on sera dans la catastrophe.
J'ai cru que tu allais dire quand on sera dans la tombe. Oui, je suis assez d'accord sur le fait de l'apparition de la sédentarité. C'est un peu l'apparition de tous les problèmes, parce que l'apparition de la sédentarité veut dire la prévoyance. La prévoyance veut dire la clôture, la barrière, la frontière, et donc la prévision, enfin, etc. Et on déborde de ses besoins immédiats pour prévoir ses besoins futurs. Donc là, il y a eu probablement un point de bascule à ce moment-là. Par rapport au rôle de l'écrivain, je pense qu'il est à la fois ridicule et immense. Ridicule parce que c'est vrai que bon, on n'a pas forcément une audience extraordinaire. Immense parce que le pouvoir du mot est très très important. Le mot est fondateur, et donc si déjà on lance par le mot des idées de ce genre, bon, ça fera peut-être son chemin dans l'esprit de certains lecteurs. Donc c'est important quand même, quoi. Donc je me sens à la fois responsable et irresponsable.
En fin de compte, pour diminuer la population mondiale, au Café du Commerce, on a toujours dit une bonne guerre. Tu en parles dans Wang, où il y a des guerres.
C'est la solution du capitalisme. Hein. Ben oui. Globalement, c'est détruire pour reconstruire et créer des glorieuses derrière, des années fastes avec du boulot pour tout le monde, etc. etc. Oui, D'ailleurs, si on continue comme ça, on y va carrément, hein, parce que ça va être une des seules façons de s'en sortir, ça va être celle-là. D'ailleurs, si des gens comme Trump arrivent au pouvoir maintenant, c'est pas forcément innocent, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du conflit qui peut arriver n'importe quand, et y compris le conflit nucléaire qui a été évoqué avec notre cher ami dictateur coréen, là, qui est super sympa aussi. Donc voilà, bon, c'est une des solutions pour en sortir, c'est effectivement la guerre.
Le repli, mais c'est un mot connoté négativement, mais le retour à quelque chose de plus pastoral et de plus local. Non, je ne parlais pas de péténisme. N'est-ce pas aussi, Nicolas, un moment où on revient à un certain nationalisme, donc à la xénophobie, au racisme, etc. Nous d'abord, alors que le monde ne va pas trop là-dedans, mais politiquement, oui, en Europe en tout cas, et aux États-Unis.
Oui, c'est. D'ailleurs, j'en parle dans mon roman, puisque je me concentre sur une région très. Très limité du monde, comme je disais. On ne sait pas du tout ce qui se passe ailleurs, et les gens qui vivent là ne bougent pas et n'ont plus aucun lien avec les autres. Et en fait, ils sont mes héros sont complètement exploités. Ce sont ceux qui pollinisent les plantes à la main par des espèces de nouveaux seigneurs qui ont concentré la terre entre leurs mains. Mais ils se révoltent pas à cause de ça, parce que ça ils l'ont accepté. Déjà, il y a plusieurs générations qui sont nées et qui vivent dans cet état de fait. Ils se révoltent au moment où une autre population a été forcée de partir de chez elle, parce que l'endroit où ils étaient c'était la pomme de terre, et la pomme de terre est en train de mourir. Donc ils descendent dans le sud. Pour entrer en conflit direct avec mes héros, puisqu'ils viennent leur prendre leur travail. Et c'est à ce moment-là que la révolte éclate. Donc, effectivement, je pense que c'est un peu inévitable. À partir du moment où on se replie sur soi-même, c'est pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et je pense que hélas, l'homme est ainsi fait. Ouais. Ouais, ouais.
Ça veut dire qu'il y a des dangers dans toutes les situations.
Oui, alors tu parlais de repli quand tu disais les communautés à l'ancienne. Moi, je voyais plutôt quelque chose où on a eu tendance depuis plusieurs siècles à aller davantage vers le macro, 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 de plus en plus grand, l'échelle de l'État, l'échelle de l'Europe. Non, non, macro. Oh non. alors que peut-être que, en tout cas, une partie de la solution, ça serait plutôt d'aller vers le micro. C'est-à-dire qu'avant, dans le temps, on était à l'échelle du village et tous les besoins étaient satisfaits à l'échelle du village, en tout cas une bonne partie. Les choses étaient fabriquées sur place. On ne tuait les bêtes que uniquement celles qu'on allait manger, et on avait de la viande pour X temps. Alors que là, maintenant, tu as une usine à poulets qui va te décapiter je ne sais pas combien de milliers de poulets qui vont atterrir dans des supermarchés, où d'ailleurs on ne sait pas s'ils seront achetés ou pas, et s'ils ne sont pas achetés, ils finissent à la poubelle. C'est-à-dire que tu as tué un animal pour qu'il atterrisse dans une poubelle. C'est quand même quelque chose qui interpelle quelque part. sans forcément dire, voilà, végétarien, on ne veut pas tuer des animaux, mais même si on en tue parce qu'on estime qu'on a besoin, au moins faisons, tuons-en le minimum. Enfin, quelque part, on a quitté cette échelle-là parce qu'on a voulu arriver à un niveau macroéconomique dans lequel, d'ailleurs, on se rend compte que même dans l'échelle des circuits, quand on regarde le circuit agricole, c'est complètement ahurissant également de se dire que l'agriculteur, c'est lui qui a produit la chose. Il n'en vit pas. Et qui va s'enrichir sur ce circuit-là? C'est tous les intermédiaires. Parce que lui, le consommateur, il va payer le prix fort. Mais le prix qu'il a payé ne va pas dans la poche de celui qui a fait le travail. Parce qu'entre-temps, il y a le grossiste, il y a le transporteur, il y a... Et ça, c'est produit parce que, justement, on n'est pas local. Donc, peut-être qu'il faut s'interroger pour revenir à des échelles plus petites sur lesquelles on trouve les besoins satisfaits. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment revoir... Tout le raisonnement économique, il faut revoir également le raisonnement à les échelons politiques, également revoir aussi les frontières d'État. Enfin, il y a peut-être sans doute beaucoup de choses à complètement réorganiser et surtout en remettant beaucoup plus de sens aux choses.
Et le repli sur soi, on le voit très nettement, puisque la plupart des pays européens sont tentés par l'ultranationalisme, par l'extrême droite. D'ailleurs, on va voir avec ces élections ce qu'il en est, mais la carte d'extrême droite est en train d'augmenter. C'est des retours aux frontières, on ferme, etc. Et je ne pense pas que ce soit une très bonne solution. Moi, je suis pour l'élargissement maximum, justement, en tâche d'huile comme l'Europe mondiale. Exactement. Et après, en reconstituant des échelles, par exemple, des ceintures alimentaires pour chaque population, bassin de population, comme ça se faisait avant en réalité, hein, et qu'il y ait le moins de déplacements possible, etc., et que ça reste effectivement à l'échelle humaine. Mais je pense que ça peut venir plus facilement lorsqu'on n'est pas dans cette espèce d'État nationaliste qu'on a connu avant et qui nous conduit tout droit à la catastrophe et à nombreuses guerres qui ont parsemé le XXe siècle. Donc je suis pour plutôt une sorte de gouvernement mondial avec effectivement un retour à une économie d'échelle, comme tu disais, village, ville, etc.
Oui, il y a quand même des solutions, mais
on ne sait pas parce que en fait, il y a
bien lointaine.
Le retour au nationalisme, c'est un retour au prêt-à-penser, c'est-à-dire on pense qu'on va être protégé par des frontières, c'est Wang en fait, hein. C'est-à-dire on dresse des barrières pour empêcher les gens de rentrer parce qu'on va se dire on va être protégé, mais c'est faux, les murs n'ont jamais protégé personne et c'est une défaite de l'humanité. À chaque fois, à chaque mur qui pousse, je pense que c'est une défaite de l'humanité et donc je voudrais qu'il y ait plus de murs, plus du tout de murs, mais justement une libre circulation et avec des réflexions sur ce que doit être l'agriculture, qui est la mère nourricière, comment on peut nourrir les populations sans créer trop de transports, etc., etc. C'est là-dessus que devrait orienter la réflexion, mais la solution semble être pour les gens, ça se passe pas bien l'Europe, donc on ferme, on va tout fermer, retour au franc, machin, truc. C'est la solution, évidemment, qui est complètement suicidaire d'emblée, quoi.
D'ailleurs, Pierre, dans Wang, imagine un Occident, Europe,
replié
sur lui-même et entouré d'un mur,
une barrière électromagnétique.
Il a écrit ça quelques années avant l'arrivée de Trump. On dit parfois que la SF est prophétique. Ben, mais tu avais imaginé quelque chose qui...
C'est marrant, c'est quand arrivé. Quand est sorti Wang, les gens m'ont dit, mais tu te plantes complètement. Le mur de Berlin vient de s'écrouler. C'est en 87 ou 89, je ne sais plus, le mur de Berlin.
89.
Ouais, il y a plus de murs et tout, et les murs n'ont pas arrêté de se reconstituer. Il y a un mur entre Israël et la Palestine, il y a un mur qui veut être construit entre le Mexique et les États-Unis. Il y a les murs partout. Il y a à Ceuta, c'est Melilla, c'est deux enclaves espagnoles au Maroc. Il y a des murailles pour empêcher les migrants de passer. En Hongrie, on commence à faire des murailles aussi. Donc les murs sont en train de se reconstruire partout. Et pour moi, c'est une grande défaite, les murs. C'est ce que disait le chef Joseph Ndéné Percé. Comment est-ce qu'on peut enfermer les choses? C'est impossible, normalement. Et c'est forcément un échec. C'est un échec programmé, un mur.
Je voudrais te donner une note un peu plus... J'allais dire rose, à ce débat aussi, en disant que si les discours de chacun sont assez lucides, comme dirait Jean-Pierre, et donc assez noirs, leur prose, elle est aussi émerveillante. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans ces bouquins. Il n'y a pas que du sordide, du noir, il y a des éclaircies. Et voilà pour le... Nicolas Carteret, par exemple, dans Les dernières fleurs avant la fin du monde, il y a de très très belles images de pollinisation à la main qui sont très poétiques, en fin de compte, même si c'est dérisoire et stupide. Et d'ailleurs, c'est une image qu'on avait retrouvée aussi, et c'est une coïncidence, dans un bouquin de Maya Lund, une Norvégienne, qui avait écrit « Histoire des abeilles » il y a maintenant un an ou deux, et qui aussi imagine ce genre de choses en Chine. Et il y a, chez Nicolas encore, ces images de ce travailleur qui est pris pour essayer d'inculquer à la fille du patron quelques rudiments d'alphabet, et qui s'éclate quand même, et qui éclate aussi Madame Apolline, qui est cette fille-là. Et là, il y a des choses qui sont réjouissantes, parce que, et c'est le cas pour les quatre écrivains, il n'y a pas que du macro-politique, il y a de l'humain dans tous leurs bouquins. Je voulais le dire pour pas qu'on croie que vraiment c'est difficile de lire leurs livres. Je voulais laisser, si vous le voulez, la parole à la salle pour l'une ou l'autre question, si vous en avez. Voilà, Jean-Pierre Fontana. Il y a quelqu'un qui va passer avec un micro, crois-je, non ? Non.
Le micro arrive là.
Le micro arrive, je crois, Jean-Pierre.
Le micro arrive.
Allez, viens jouer le tribun.
Merci. On a parlé, je dirais, d'abord de macro et de micro. On a parlé de dystopie, qui d'ailleurs nous donne des avertissements, mais pas de solutions. Il y a un roman qui est paru, ça fait déjà 30 ou 40 ans, etc., qui vient d'être réédité, qui s'appelle « Écotopia ». Je crois que c'est la seule utopie du XXe siècle. Je peux me tromper, mais je crois bien. C'est un auteur américain, donc le nom, je l'ai oublié, peu importe, où les États, je dirais, de la Californie, en gros, enfin, de la côte ouest des États-Unis, vont faire sécession par rapport au reste de l'Amérique, et il construit à partir de là une société complètement écologique. Alors, je ne vais pas raconter le livre, hein, c'est inutile, mais c'est intéressant parce que, je dirais, il propose effectivement des solutions dont on parle actuellement, à l'époque on n'en parlait pas, et qui là entre en application. Et je veux dire, ce qui est un peu, je dirais, qui donne de l'oxygène, c'est qu'effectivement, enfin, on a une utopie qui nous propose des solutions pour un avenir de l'humanité. Je ne dis pas que c'est réalisable, mais en tout cas, c'est revigorant, si je puis dire.
Mais tu sais où nous mènent les utopies de temps en temps.
Oui, voilà. Et c'est vrai que des utopies, il y en a eu autrefois. Et pourquoi on n'écrirait pas de nouveau des utopies en proposant des solutions et en les mettant en application ? Voilà. Et je fais mon mea culpa parce que j'ai aussi écrit, je dirais, des dystopies. Donc,
oui, mais c'est hyper chiant d'écrire des utopies.
Pardon ?
Ça n'a aucun intérêt esthétique. La destruction a plus d'intérêt esthétique. Mais ça, c'est blague mise à part. Je pense qu'il y a une fascination de la destruction aussi, quelque part. Pour les auteurs qui font de la dystopie ou du post-apocalyptique, il y a une sorte de fascination de fin du monde.
Bien sûr.
Il y a un côté, fin du monde, destruction.
En plus, c'est ce qui fascine le lecteur.
L'utopie, ils ont l'air bien, ils auront beaucoup d'enfants, ou peu d'enfants d'ailleurs.
C'est quand même.
Quand on commence à écrire cette phrase, c'est compliqué d'écrire la suite après, si évidemment les enfants ne se droguent pas, ou s'il n'y a pas un quelconque conflit quelque part. C'est compliqué de faire des utopies. Et l'utopie dont tu parles, que je ne connais pas par ailleurs, mais tu dis que c'est sécession d'un État par rapport à d'autres, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui se sépare du reste de l'humanité pour vivre une expérience utopique.
Oui, ça veut dire
je pense que c'est condamné, ça, déjà.
Oui, mais justement, c'est
ça veut dire qu'il y a un mur, ouais.
Enfin, bon, il faut lire le livre. Mais je le conseille parce que ça sort par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de lire. Ouais. Voilà, c'est intéressant d'essayer d'imaginer des solutions, quoi. Voilà.
Ouais. Merci, Jean-Pierre. Y a-t-il une autre question ? Pas d'autres questions ?
Juste pour commenter ce que disait Jean-Pierre, c'est vrai que souvent les gens font ce reproche en disant « Vous êtes catastrophiste, quand vous parlez effectivement du réchauffement climatique, moi j'en ai marre d'entendre des trucs qui se passent mal, j'ai pas envie de penser à ça, je veux vivre ma petite vie tranquille. » Il faut savoir que tout ce qui nous pend au nez, là, n'est pas forcément que négatif. Et je pense qu'il faut le prendre comme un vrai challenge, parce que ça nous met un coup de pied au derrière pour nous forcer à imaginer autre chose. Et si on fait les choses bien, ça sera sûrement mieux pour nous et mieux pour la planète. Donc il faut aussi le prendre comme quelque chose qui peut apporter des changements positifs.
Merci pour cette fin agréable. Merci aux écrivains, Nicolas Carteret, Jean-Pierre Andrevon, Pierre Bordage et Sylvie Miller, dont j'avais oublié de noter tout à l'heure qu'elle a écrit ce livre avec Philippe Ward. Il ne faut pas l'oublier, même s'il n'est pas là. Je vous remercie de votre attention et bon après-midi. Et les écrivains qui sont ici sont présents dans la bulle du livre et sont évidemment tout à fait capables de dédicacer leurs nombreux bouquins. À bientôt.